Karima.
Et bonjour Bruno.
Alors, au programme de cette revue de presse, le concombre, le fameux concombre espagnol. Des expertises ont été mises en place sur le marché de Perpignan. On parlera des fonctionnaires qui manifestent aujourd'hui. On parlera aussi de la réforme de l'éducation nationale qui commence à se dessiner. Et enfin, comme tous les jours, un petit point sur la présidentielle. Et on commence cette revue de presse avec le Midi Libre qui revient sur l'affaire des concombres espagnols et leurs conséquences dans la région.
Et oui, alors que des concombres contaminés par la bactérie Escherichia coli, EC, c'est plus facile à dire, auraient fait 14 morts en Allemagne, 3 décès au moins lui sont en tout cas directement imputables. Dans la région Languedoc-Roussillon, frontalière de l'Espagne, des analyses ont été faites sur le marché Saint-Charles à Perpignan. Elles se sont avérées négatives. Saint-Charles est un marché dans lequel 60% de ce qui vient d'Espagne transite, précise le directeur du Centre d'éclatement européen pour les fruits et légumes Georges Jourdan. Il rappelle que sur 500 exportateurs en Espagne, seuls 2 sont concernés. La source de la contamination serait située dans une exploitation conventionnelle à Almeria et une exploitation bio à Malaga. Côté agriculture française, Midi Libre rappelle que le risque d'une psychose pourrait avoir de lourdes conséquences sur la vente de concombres actuellement en pleine saison, d'autant que des chercheurs de l'Institut de veille sanitaire ont souligné hier que tomates et salades pourraient également être contaminées. Les producteurs recommandent aux consommateurs d'acheter français. La sécurité sanitaire, le respect des règles sociales et des normes environnementales ne sont pas compatibles avec la recherche du prix toujours plus bas, annonce-t-il dans un communiqué. Fabrice Verdier, en charge des questions agricoles au Conseil régional du Languedoc-Roussillon, rappelle que la contamination des concombres a pu avoir lieu sur un autre maillon de la chaîne. En effet, selon certains professionnels, la contamination proviendrait du fait qu'en Espagne, les professionnels utilisent des engrais organiques. Par ailleurs, d'autres cas ont été dénombrés en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse.
On poursuit avec l'Héros du jour d'hier qui fait un point sur le mouvement de contestation chez les fonctionnaires. Les professionnels de la fonctionnaire, non, c'est n'importe quoi, les fonctionnaires.
Et oui, c'est cet après-midi qu'aura lieu la manifestation annoncée de longue date par 5 syndicats éroltés. Les agents de la fonction publique dénoncent le gel des salaires jusqu'en 2013, un gel sur 2 ans qui est une première depuis la libération, rappelle le quotidien. On dit depuis des années aux salariés que s'ils acceptent les réformes, la fonction publique sera moins nombreuse mais mieux payée. Et à l'arrivée, c'est un décrochage abyssal, explique Patrick Desnaux de la CGT. Il dénonce aussi l'individualisation des salaires par l'augmentation du pourcentage des primes par rapport au salaire. Que signifie la productivité à l'éducation nationale, aux impôts ou à l'hôpital, dénonce le syndicaliste. Selon Raymond Martin de la FSU, en 10 ans, les personnels ont perdu l'équivalent d'un échelon. Christian Doré de la CFDT explique lui que certains fonctionnaires cherchent un deuxième emploi, ce qui leur est interdit. Patrick Desnaux rappelle, je cite, que le président de la République se vante d'avoir supprimé 100 000 emplois de fonctionnaires depuis son arrivée. On travaille plus pour gagner moins. Autre point, les syndicalistes dénoncent également le fait que lorsque l'État embauche, il fait toujours appel à des précaires. À la Poste, le salaire d'embauche est inférieur de 14 euros au SMIC mensuel, explique un syndicaliste. Les fonctionnaires en grève ont été appelés à se rassembler ce matin à 9h30 devant la sous-préfecture de Béziers. Le cortège montpelliérain partira à 15h du Pérou. L'unité syndicale a également demandé une audience à 16h30 à la préfecture.
Et direction le Midi Libre et la réforme des rythmes scolaires qui commence à se dessiner.
Et oui, selon le quotidien, un consensus entre les experts chargés de proposer une réforme des rythmes scolaires commence à apparaître. Les experts sont d'accord pour bannir la semaine de 4 jours en primaire, mais le raccourcissement des vacances d'été reste en discussion. Selon Midi Libre, le comité de pilotage pourrait proposer une semaine d'au moins 9 demi-journées en primaire. La décision de faire classe le mercredi ou le samedi est en prise au niveau local. Il y aurait au maximum 5 heures de classe par jour en primaire, 6e et 5e, 6 heures en 4e et 3e. La pause durerait au moins 1h30. Chaque jour, l'accompagnement éducatif de 2h serait obligatoire. Conséquence, les écoliers n'auraient plus de devoirs. Cette réforme devrait répondre aux erreurs de la réforme d'Arcos qui avait conduit les écoliers français à avoir les journées les plus lourdes d'Europe. Concernant les vacances, le comité pourrait allonger l'année scolaire de 2 semaines. Pour cela, il faudrait raccourcir les vacances d'été de 2 semaines, en allongeant celle de la Toussaint d'une semaine, réduire celle du printemps à 10 jours et donner le pont de l'Ascension à tous. C'est le ministre Luc Chatel qui décidera de tout cela à la fin du mois de juin. Affaire à suivre.
Et oui, affaire à suivre. On finit comme tous les jours par un petit point sur la présidentielle avec le 20 minutes qui revient sur les conséquences en France du choix allemand en matière de nucléaire.
Et oui, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé hier que toutes les centrales allemandes fermeraient d'ici à 2022. Conséquence, cette annonce oblige les candidats à la présidentielle à se prononcer en matière de nucléaire. Alors côté UMP, à la question « faut-il sortir du nucléaire ?», la réponse est bien sûr non. Selon Jean-François Copé, le secrétaire général du parti, 85% de notre énergie est produite par le nucléaire. C'est un élément majeur de notre puissance industrielle, il ajoute qu'en sortant du nucléaire, l'Allemagne va devoir acheter de l'électricité à la France. Du côté des Verts, c'est tout l'inverse, selon Djamila Sozogny, une porte-parole du parti. Cela peut devenir un grand thème de campagne, même s'il y a d'autres questions, celle du chômage entre autres. Selon elle, les Français s'intéressent de plus en plus aux questions énergétiques. Dès qu'on aborde ces questions, on fait le plein en réunion, explique-t-elle. Enfin, côté parti socialiste, c'est plus nuancé. Favori de la course à l'Elysée, le PS reste prudent sur la question nucléaire. Laurence Rossignol, secrétaire nationale au PS, rappelle qu'il y a toujours eu des pros et des anti-nucléaires dans le parti. Jusqu'à Fukushima, les pros étaient les plus audibles. Aujourd'hui, les positions sont plus équilibrées. Dans le projet socialiste pour 2012, il est question de mettre fin à la dépendance au nucléaire. Pas de sortie programmée. L'engagement dans l'après-nucléaire dépendra du candidat. Selon 20 minutes, a priori, François Hollande y serait moins favorable que Martine Aubry.